Notre avenir énergétique a-t-il l'allure d'un SMR, un mini-réacteur nucléaire? C'est l'un des exemples de technologie à développer présenté par le président de la République dans le cadre du plan France 2030. Autrement dit, la question de la fin du nucléaire ne serait plus du tout à l'ordre du jour pour l'exécutif. L'énergie atomique serait même un des leviers pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comme prévu. Bonjour Yves Marignac.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt, association d'experts qui défend les économies d'énergie et le recours aux renouvelables. Ce matin, le gestionnaire du réseau électrique RTE a présenté ses scénarios très attendus pour 2050. Qu'est-ce que vous en pensez de ces scénarios ?
Alors, la première chose, c'est de saluer le sérieux avec lequel RTE a préparé depuis plus de deux ans, avec beaucoup de concertation à laquelle on a participé, ces scénarios. Et ensuite, le point important sera d'en tirer les messages en prenant en compte l'ensemble des informations qui y sont contenues et pas ne choisissant que un certain nombre d'entre elles. Deux éléments. D'abord, le premier enseignement de ce rapport, c'est quand même le fait que, pour la première fois, RTE dessine des trajectoires allant vers 100% d'énergie renouvelable pour l'électricité.
Il y a un scénario qui est fondé sur 100% d'énergie.
Il y a six scénarios de mix électrique, dont la moitié atteignent ce 100% renouvelable ou vont vers ce 100% renouvelable à l'horizon 2050-2060. Et donc, il y a un premier message qui est RTE reconnaît la faisabilité, la crédibilité d'une telle orientation, ce qui pour nous est fondamental. Ça fait une dizaine d'années l'association Négawatt dit que c'est possible. C'est fondamental parce que ça ouvre des choix.
Oui.
Et c'est un peu paradoxal que au moment où ce choix s'ouvre, le président de la République semble vouloir le refermer en disant des réacteurs sont absolument nécessaires. Et ça, c'est le deuxième point à retenir de ce rapport, c'est que parallèlement à des scénarios sur le mix de production, RTE a travaillé à différents scénarios sur la demande. Et le premier message de RTE dans sa synthèse, c'est que un effort supplémentaire sur la maîtrise de la demande d'électricité sera crucial pour atteindre nos objectifs. Mmh. Et ce qui ressort du rapport, c'est que plus on fait cet effort, en fait, sur la maîtrise de la demande, moins les réacteurs nucléaires deviennent nécessaires. Et donc, c'est bien ça le débat qui est devant nous.
Et ça, c'est ce que vous défendez, hein, Négawatt. On a une question d'Angélique qui nous appelle de l'Ain. Bonjour, Angélique.
Oui, bonjour.
Vous parlez justement de la consommation d'électricité par les Français.
Voilà, c'est ça. En fait, moi, je me demande pourquoi annoncer une hausse de consommation énergétique de 30% d'ici 2050 et projeter une stratégie énergétique gouvernementale alors que le problème de surconsommation dû au retard d'isolation des bâtiments est toujours pas réglé.
Angélique, vous posez cette question, donc Yves Marignac.
Merci de cette question. Enfin, la remarque est plus que pertinente, elle est centrale par rapport justement à la problématique qui est devant nous. Ce qui est devant nous, et RTE le dit très bien, et l'association Négawatt qui publie son propre scénario demain insiste beaucoup là-dessus, c'est un mur de réinvestissement dans notre système électrique, avec le vieillissement notamment du parc de réacteurs. Et on est dans une situation où, alors qu'on s'approche de ce mur, on pense que pour décarboner notre système énergétique, il faut accélérer sur l'électrification des usages, le véhicule électrique, le passage à l'électricité d'un certain nombre de process industriels.
Et réduire
accélérer aussi sur la réindustrialisation. Et donc, si vous faites ça, évidemment, ça tire la consommation d'électricité vers le haut, mais ça n'est pas du tout raisonnable d'augmenter cette consommation alors qu'on s'approche de ce mur de réinvestissement. Et donc, la clé pour maîtriser ce mur de réinvestissement, à la fois en termes de faisabilité technique et industrielle et en termes d'impact sur les coûts et donc sur les factures des ménages et des entreprises, c'est de renforcer dans le même temps, en même temps, la maîtrise de la consommation d'électricité. Et la remarque sur la rénovation thermique des bâtiments est extrêmement juste parce que ce qui dimensionne aujourd'hui le problème du système électrique, c'est la pointe hivernale liée au chauffage électrique. Et donc, la rénovation de nos bâtiments pour réduire cette pointe est vraiment cruciale pour la suite.
Et c'est ce que vous défendez, mais ce que vous dites, c'est vous dites aux Français, en fait, il va falloir dépenser maintenant pour rénover vos maisons, changer vos fenêtres, isoler vos combles et pour dépenser moins d'énergie plus tard.
Alors ce qu'on dit d'abord aux Français, c'est que il faut avec une certaine urgence sortir d'un imaginaire où on fait comme s'il n'y avait pas de limite. Il y a l'urgence climatique, il y a des limites sur les matières premières, il y a des limites sur les usages des sols, etc. Et donc il faut aujourd'hui effectivement inventer collectivement des nouveaux modes de production et de consommation qui sont plus économes, non seulement d'énergie, mais de ressources. Et donc ça veut dire effectivement travailler à la rénovation thermique des bâtiments, ça veut dire mettre en œuvre de la sobriété dans la mobilité, par exemple. Tout ça demande des changements de comportement des Français, mais il faut être très clair, l'enjeu n'est pas de reporter sur les consommateurs un effort que certains d'entre eux d'ailleurs ne peuvent pas supporter aujourd'hui.
Mais
avec
donc comment
les prix.
On fait pour passer de 30 000 à 800 000 rénovations de thermiques par an,
Il faut mettre en œuvre des politiques publiques. On a sur la rénovation des outils aujourd'hui qui permettraient de faire différemment de la politique menée par le gouvernement, qui privilégie plutôt le saupoudrage et les petits gestes, les rénovations par étapes. Nous, on défend résolument l'idée de rénovation complète et performante, si possible en une seule étape, ou en tout cas en un nombre limité d'étapes. Il faut pour ça former les artisans pour mettre en œuvre de façon concertée et efficace, évidemment. Et c'est un gisement d'emploi très important. Il faut mettre en place des systèmes de financement qui permettent en fait de faire l'avance aux ménages et de se rembourser pour les prêteurs sur les économies d'énergie réalisées. Mais tous ces outils, ils existent aujourd'hui. On sait qu'ils sont opérationnels. C'est une question de volonté politique de les mettre en œuvre. Et encore une fois, c'est en creux, ce que souligne RTE en disant que la maîtrise de la demande sera clé pour maîtriser cette trajectoire électrique, et ce qu'affirme depuis longtemps, et encore demain avec son nouveau scénario, l'association Négawatt, c'est une priorité urgente des politiques publiques pour le prochain quinquennat d'accélérer sur l'efficacité et la sobriété.
Alors ce que dit le gestionnaire du réseau électrique aussi, c'est qu'il y a un avantage économique quand même à garder une part de nucléaire. C'est moins cher, et c'est vrai qu'on paye en France notre électricité moins cher, notamment parce qu'on a un parc nucléaire.
Alors ça c'est un résultat effectivement que produit RTE qui nous semble discutable sur différents points. Le premier, c'est que ce qui ressort là aussi de l'ensemble des trajectoires travaillées par RTE, quand on regarde non seulement les différents scénarios sur l'offre, mais les scénarios sur la demande, c'est que engager des efforts d'efficacité et de sobriété apporte des économies sur le coût global du système qui peuvent être du même ordre de grandeur que le différentiel entre tel que le calcul en tout cas RTE entre un scénario avec du nucléaire ou un scénario tout renouvelable. Ça, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que l'enjeu, là aussi, RTE est d'accord sur la nécessité de développer de toute façon fortement les renouvelables. L'enjeu, c'est plutôt associer à ce développement des renouvelables la maîtrise de la consommation et, du coup, faire l'économie du développement de réacteurs nucléaires ou, au contraire, parier sur les réacteurs. Dans les coûts, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans la manière dont RTE calcule les coûts respectifs des renouvelables et du nucléaire, il y a un certain nombre de choix méthodologiques ou d'hypothèses qui sont plutôt favorables au nucléaire. Par exemple, RTE utilise le coût que le gouvernement a fourni sur les coûts de futurs EPR, qui est le coût calculé par EDF. On a, nous, des doutes importants sur le réalisme de cette hypothèse. Il y a encore une fois un certain nombre de biais de ce type. Donc ça, il faudra le regarder dans le détail.
Alors, Yves Marignac, en clair, ça nous coûte combien en fait de faire le changement de modèle?
Ce qui est clair là aussi, c'est que de toute façon, on a devant nous un horizon qui est d'inventer un nouveau système électrique. Là aussi, RTE le dit et on est en phase. Le système électrique de demain ne sera pas le même que celui qu'on a connu ces dernières décennies. On a besoin de l'inventer et on a besoin d'investir pour le mettre en œuvre. Et donc, on a devant nous une augmentation inévitable des coûts de l'électricité liés à ces réinvestissements. Et, encore une fois, pour maîtriser l'impact économique de ces coûts, la meilleure solution serait de maîtriser les consommations. Mais voilà, les choix sont devant nous. Il y a quand même un point essentiel dans tout ça, c'est qu'ils sont plus ouverts qu'ils ne l'ont jamais été. Et ça serait vraiment dommage, dramatique sur le plan démocratique, qu'au moment où ils sont ouverts, certains politiques cherchent à les refermer.
Question de Françoise qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour le porte-parole de Negawatt?
Oui, alors ma question est très orientée puisque j'habite près de Penly, là où il y a une menace de deux EPR. Et en tant que consommatrice...
C'est-à-dire de construction?
De construction, oui. Donc, en tant que citoyenne, je reprends ce que disait Yves Marignac. Isoler une maison, c'est avoir du confort. Et refuser le nucléaire, c'est avoir plus de sécurité aussi dans son existence. Et ne plus avoir ce poids épouvantable des déchets futurs. Et ça, au niveau citoyen, c'est extrêmement important pour moi. En plus de la sobriété, bien évidemment. Mais c'est pas très électoral non plus, ce thème de sobriété. Il vaut peut-être mieux continuer à ce que les gens se saoulent complètement de surconsommation. C'est compliqué, je pense, au niveau politique. Mais au niveau citoyen et humain, c'est fondamental.
Merci, merci Françoise pour cette question qui est aussi un commentaire, hein, la réponse d'Yves Marignac.
Alors c'est encore une fois un commentaire tout à fait pertinent sur l'ensemble des enjeux à prendre en compte. On a du côté de l'association Negawatt clairement une lecture de la différence entre le nucléaire et les renouvelables qui ne s'attache pas que à leur caractère décarboné pour produire de l'électricité, mais à l'ensemble des enjeux de soutenabilité. Et pour nous, les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015 sont vraiment la matrice de réflexion dans laquelle il faut se projeter. Et le GIEC, notamment en 2018, dans un rapport sur les trajectoires, donc le GIEC qui travaille sur les questions climatiques, le groupe d'experts sur le climat, a, dans un rapport sur les trajectoires 1,5 degré, analysé différentes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre au prisme de l'ensemble des objectifs de développement durable. Il ressort de cette comparaison que le nucléaire, parmi toutes les options, est celle qui a le moins d'impact positif sur les autres objectifs, autrement dit, qui est la moins soutenable. Donc ça, c'est un point...
Sur la question des renouvelables, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, on a au standard la question de Stéphane, que je vais être obligé de prendre dans ma voix, parce qu'il faut aller assez rapidement, maintenant on arrive à la fin de cet entretien. Stéphane qui nous demande, en clair, pourquoi il n'y a pas plus d'éoliennes en France? C'est vrai qu'il y a une sorte de mouvement de résistance en ce moment.
Alors, il y a effectivement une résistance à l'éolien, mais... Il y aurait de la même manière probablement une résistance à de nouvelles lignes de tension, à de nouveaux réacteurs nucléaires, etc. Il y a globalement une résistance à l'implantation de nouveaux équipements et à la saturation en nouveaux équipements. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il faut agir en matière d'efficacité et de sobriété. C'est que c'est une manière de réduire les besoins de nouveaux équipements et donc d'augmenter leur acceptabilité. Les renouvelables, d'autre part, sont un moyen de diffuser la création de valeur de façon beaucoup plus harmonieuse dans les territoires. Et donc, lorsque c'est fait dans des bonnes conditions, de renforcer là aussi leur acceptabilité.
Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt, merci de nous avoir répondu sur France Inter. On reparle de notre avenir énergétique ce soir dans le téléphone sonne sur Inter, 19h20, avec le président du gestionnaire de réseau d'électricité RTE. Vos questions, c'est toujours au 01 24 7000.